Classique 21, you rock.
Radio Caroline. Radio Caroline. Avec Olivier Monsens.
Salut, heureux de vous retrouver à bord de notre cargo de Radio Caroline qui traverse en ce moment l'archipel du Japon pour accoster dans un instant sur l'île principale. Et ce, pour un voyage qui commencera par le taillage en pièces de quelques idées préconçues et fausses au sujet de ce pays, après quoi nous nous glisserons dans le Tokyo du début des 60s, en plein essor, et tel que vu par des journalistes de la RTBF de cette époque, vous verrez, c'est assez savoureux, pour ensuite partir à la rencontre d'une pionnière rebelle de la photographie japonaise, laquelle, au milieu des 70s, s'est imposée au sein d'un milieu et d'une société particulièrement sexiste et dont les clichés évoquent un Japon singulier. Nous suivrons ensuite un journaliste français dans sa découverte en 1970 du Tokyo nocturne, au cœur des quartiers chauds, mais aussi dans ses mutations. Avant d'évoquer une audacieuse dessinatrice à l'avant-garde de la BD japonaise dans les années 60. Entamons donc notre voyage par la remise en cause d'idées reçues, comme le formule le journaliste Florent Dabadi qui vit au Japon depuis plusieurs décennies et s'est fendu dans un récent numéro de la revue Cometa avec un K d'un « Le Japon n'est pas ». Extrait. Le Japon n'est pas un pays d'Asie. À Tokyo, il n'y a pas de kimono, mais des costumes italiens, pas d'encens, mais des parfums inventés pour le marché nippon par les plus grands nés de Grasse, au sud de la France. Dans les romans, les héros écoutent du jazz et les filles se marient dans des églises. Les retraités rêvent de Paris, Venise ou Honolulu et ne s'aventurent guère à Pékin, Phuket ou Katmandou. Le Japon est à l'ouest, occidental par sensibilité ou par snobisme. S'il reste encore des traces d'Extrême-Orient ici, dit-il encore, c'est dans le folklore, le bestiaire onirique des contes d'enfants enracinés dans les histoires de dragons et de fantômes chinois et dans les danses traditionnelles au son du shamisen, ce luth à trois cordes. Ou encore dans l'irremplaçable riz quotidien et dans les idéogrammes de la signalétique urbaine. Et peut-être chez la jeune génération qui, née dans les années de récession, se recroqueville dans un univers fait de K-pop coréenne et de fripe chinoise. Autre idée fausse, non, le Japon n'est pas zen. Il n'y a pas plus galvaudé que le terme zen, note Florent Dabadi. Zen, qui est une secte bouddhique venue de Chine au début du premier millénaire et dont la pratique est centrée sur la méditation, zazen. Or, peu de Japonais méditent aujourd'hui et le zen entre à peine dans le top 5 des courants bouddhistes les plus populaires au Japon. Et pour ce qui est d'être zen, les Japonais sont plus bavards et émotifs que les Bretons. Le soir, après quelques bières, ils se déchaînent dans les karaokés. Ils hurlent sur un terrain de baseball, tombent dans la folie pure au tournoi de sumo où, à la première défaite d'un favori, ils jettent les coussins des tatamis en l'air à la manière d'une gigantesque bataille de polochons. Lisez « Les bébés de la consigne automatique » de Ryu Murakami, où les deux héros du roman sautent, chantent et crient à tue-tête quand le personnage féminin promène son alligator de compagnie sur le périphérique de Tokyo, et vous serez convaincus que le Japon est punk. Enfin, troisième, le Japon n'est pas, parmi d'autres dans cette revue Cometa, le Japon n'est pas que Tokyo et Kyoto. Les pâtisseries traditionnelles de Matsue, le fief rebelle des derniers samouraïs de Shonai, les balades à vélo dans l'île de Sado, le littoral mélancolique de Yamagata ou les thermes aux eaux laiteuses d'Akita. Et si l'âme japonaise se trouvait sur ces faces cachées de l'archipel. Je suis allé, pour la première fois après 30 ans dans ce pays, passer un week-end de 3 jours dans la ville de Masuda et je me suis promené dans les champs de thé. J'ai fabriqué du papier washi et j'ai découvert le fabuleux musée Grand Toit à l'architecture évolutive, hommage à l'ancien artisanat local de la tuile. Qui plus est, la mer du Japon est désormais desservie par un train jusqu'au département de Fukui, connu pour sa cuisine de crabe en hiver. Prendre les petits trains est l'essence même du voyage au Japon, conclut Florent Dabadi. Quand, dans les années 60, alors que le Japon entame sa transformation vers la modernité, des reporters de la RTBF reviennent de Tokyo, cela donne par exemple ce sujet dans le journal télévisé du 5 février 1962 au sujet d'un train sans conducteur et de l'avenir de l'humanité avec une forme d'intelligence artificielle.
Un jour, on se passera entièrement de nous. C'est ce que les conducteurs de trains japonais ont dû se dire en voyant s'ébranler pour la première fois un convoi ferroviaire parfaitement automatique. Un simple ruban est plus efficace que la conscience et le cerveau. Ses réactions sont instantanées. Voilà le règne des tableaux électroniques. L'homme n'a plus qu'à leur faire confiance. D'autres machines sont là pour les contrôler. L'expérience vient d'avoir lieu à Tokyo et des techniciens ont noté précieusement chacun des réflexes, chacune des conditions dans lesquelles elle a pu se dérouler. Il semble bien qu'elle ait donné toute satisfaction, car d'autres essais plus ambitieux vont être effectués sur les 550 km Tokyo-Osaka. Dès maintenant, un pas nouveau sur la voie du progrès technique.
Un an plus tard, le 12 mai 1963, reportage sur les préparatifs des Jeux Olympiques de Tokyo qui vont complètement bouleverser la capitale japonaise.
Voici le Tokyo actuel. L'étranger, en y arrivant, est assez surpris. Il s'attend à visiter une ville traditionnaliste et c'est une capitale moderne qui s'offre à lui. Ici, les gratte-ciels poussent plus vite qu'à Manhattan et les distractions sont les mêmes que dans nos grandes villes occidentales. Le métro déverse 300 000 clients dans le plus grand magasin du monde, le Toyoko. L'hôtesse japonaise vous salue et vous remercie d'avoir choisi son magasin pour faire vos emplettes.
En circulant dans Tokyo, ces jours-ci, j'ai aperçu des immenses chantiers, à peu près tous les 100 ou 150 mètres. Allez-vous, non pas reconstruire Tokyo, mais remodeler la capitale du Japon?
Tokyo était complètement ruiné pendant la guerre. C'était presque une plaine en 1945. Mais nous n'avons pas pu profiter de cette occasion pour reconstruire la ville d'une façon tout à fait moderne. Alors, actuellement, nous sommes en train de construire beaucoup d'autres routes et des routes importantes et encore des nouvelles lignes du métro. Alors, en apparence, Tokyo est, comment dirais-je,
ressemble à un immense chantier.
Chantier, c'est ça. Mais dans deux ans, l'apparence de Tokyo sera complètement changée.
Cet événement bouleverse tout l'empire du soleil levant qui a décidé de faire de ses 18e Jeux les Jeux Olympiques du siècle. Et pour cela, avant tout, il a fallu changer le visage de Tokyo qui a les plus mauvaises artères du monde. Dans la capitale japonaise, 1 300 000 véhicules roulent dans tous les sens. Ils ne respectent rien, même pas la vie de leurs chauffeurs, puisque les commissariats affichent chaque jour le nombre de morts et de blessés. Pour remédier à cet état de choses, on a construit cette immense autoroute aérienne qui traversera tout Tokyo, suspendue à une hauteur de 10 mètres. Elle aura une longueur de 56 km, c'est une construction prodigieuse. Le futur village olympique sera situé à 2 km du centre de Tokyo, c'est une ancienne base américaine constituée de petits bungalows où étaient logées les familles des officiers américains. Soucieux de récupérer cette base, les Japonais déclenchèrent involontairement des complications diplomatiques. La Maison Blanche fut alertée et les Américains s'en allèrent. Ils déménagent absolument tout, même les arbres qu'ils replanteront devant les nouvelles maisons que le comité d'organisation olympique vient de leur offrir en compensation. Dans quelques mois, le futur village sera terminé. Des équipes d'ouvriers travaillent sans arrêt pour bâtir ce centre sportif où se retrouveront les 70 000 athlètes venus du monde entier. Comment le monde sera-t-il informé des résultats des Jeux Olympiques? Avant tout, bien sûr, par la télévision. Le Japon possède 8 chaînes, dont 2 en couleur. Les studios de la NHK à Tokyo sont équipés d'un matériel ultra-moderne. A préciser que la NHK dirige la principale chaîne de télévision au Japon. Elle possède en outre 220 stations de radio dans tout le pays. Il existe en outre 100 stations privées de radio qui s'occupe principalement d'émissions commerciales. Les programmes de TV sont variés, reportages, sport, dramatique et comédie américaine sont très appréciés du public. Les émissions commencent le matin à 5h et se terminent le lendemain matin à 2h, soit 22 heures de programme par jour. L'importance de la presse est considérable. Il existe en effet 225 quotidiens. Leur tirage total atteint 40 millions d'exemplaires. Cela signifie que chaque famille japonaise lit en moyenne 2 journaux par jour. Un petit détail, le plus grand journal du monde est japonais, l'Asahi, qui tire à lui seul 9 500 000 exemplaires tous les matins.
Retrouvons à présent Ishiyoshi Miyako, qui est une pionnière rebelle de la photographie, la première japonaise à s'être non seulement fait un nom, mais imposée au sein de ce milieu et dans une société particulièrement sexiste. Née en 1947, elle a grandi, entre 6 et 19 ans, à Yokosuka, à une heure au sud de Tokyo. Une ville qu'elle quittera pour étudier le design et le textile à l'université, avant de saisir un appareil photo à l'âge de 28 ans et de fixer les derniers feux de la guerre du Vietnam au milieu des années 70. Puis elle reviendra à Yokosuka pour se confronter au passé, celui de sa ville, mais aussi celui de sa vie. Dans un entretien publié sur le site AWARE, Archives of Women Artists Research and Exhibition, qui rend visibles des femmes artistes du XVIIe au XXIe siècle, Ishiyoshi Miyako explique « Il s'agissait pour moi d'un retour aux origines. Je voulais exprimer ma douleur. » Il y avait une base navale américaine et lorsque j'étais enfant, on m'interdisait d'aller dans certaines rues car les viols y étaient fréquents. C'est ainsi que j'ai pris conscience que j'étais une femme. Dans cette ville occupée, les crimes sexuels étaient quotidiens. Tout le monde faisait comme s'il s'agissait de quelque chose de normal, mais moi je ne pouvais me résoudre à l'accepter. J'étais choqué. Ce n'est qu'en 1995 que les viols commis par les forces américaines à Okinawa durant la bataille de 1945 et ensuite par les troupes alliées d'occupation ont été dénoncés, mais ils n'ont toujours pas été condamnés à Yokosuka. Enfant, cette ville provoquait chez moi un sentiment complexe. Elle me répugnait et en même temps, elle m'attirait. Quand j'y suis revenu, j'ai commencé à la photographier car je considérais que j'étais la seule à pouvoir révéler le vrai visage de cette ville. Bien évidemment, je connaissais les séries de photos des célèbres photographes Moriyama et Tomatsu, mais ces deux artistes ont montré le quartier américain. Cela leur paraissait pertinent dans le contexte des manifestations contre la guerre au Vietnam. Ils ont posé un regard masculin sur Yokosuka. Mais moi, en tant que femme, je ne pouvais pas accéder à la base américaine. Eux ont photographié les États-Unis, alors que moi, j'ai représenté l'histoire de mon enfance.
Radio Caroline. Radio Caroline, avec Olivier Monsens.
Ishiyoshi Miyako a un jour déclaré « Je suis venu à la photographie presque par hasard, mais j'ai été envoûté par la chambre noire. L'obscurité m'a toujours projeté dans un autre monde où tous les sens sont en éveil. Développer les clichés à main nue est pour moi un acte sexuel. J'ai engagé mon corps tout entier dans la photographie. » Mais avant cela, il y a eu une volonté d'affirmation, de contestation, de révolution minée par les désillusions. En 1968, alors qu'elle a 20 ans, Ishiyoshi Miyako a participé aux révoltes étudiantes qui ont eu lieu dans les universités japonaises comme ailleurs. Mais dit-elle, en 68, les hommes étaient sur les barricades et les femmes étaient cantonnées à la cuisine. La révolte était toujours menée par les hommes et le partage traditionnel des rôles ne me convenait pas. J'ai vite abandonné cet engagement. En revanche, je me suis rapproché du mouvement de libération des femmes dès sa création. En 1976, j'ai organisé à la Shimizu Gallery à Yokohama une exposition qui regroupait 10 femmes photographes, dont moi-même. J'avais alors 29 ans et j'avais l'impression de ne pas m'être assez impliqué dans la lutte pour l'égalité entre femmes et hommes. Le projet est né de ce regret. Les autres artistes invitées étaient elles aussi âgées d'une vingtaine d'années. La moitié d'entre elles ont ensuite interrompu leur carrière, d'autres sont décédées. À l'époque, les femmes étaient très discriminées dans ce métier. Nous nous sommes organisées nous-mêmes et avons volontairement inversé les rôles traditionnels en choisissant de faire des portraits d'hommes. Moi, par exemple, j'ai photographié des corps masculins nus. J'ai également écrit le texte de présentation de l'exposition qui avait pour moi valeur de manifeste. Il s'agissait également d'un projet collectif et nous avions décidé de ne pas signer nos œuvres. Malgré nos efforts, le monde de l'art nous a complètement ignorés. Et je suis étonné de constater qu'aujourd'hui, on attribue de plus en plus d'importance à cette exposition. En 1976, elle n'avait intéressé que la télévision et la presse à scandale, attirée par le caractère provocant du contenu, dit encore la photographe. Au milieu des années 80, la loi sur l'égalité des chances en matière d'emploi au Japon bouleversera heureusement ce milieu artistique, profondément sexiste, je le disais, comme le confirme une spécialiste nippone. Des femmes sont devenues critiques d'art, commissaires d'exposition ou responsables de musées. Elles ont accompagné l'éclosion d'une multitude d'artistes qui apporteront un autre regard, le point de vue manquant. Tokyo Bohème, au fil des rencontres, 1970-2024, c'est signé Philippe Pons, correspondant au Japon pendant de très nombreuses années, et c'est paru dans la collection Témoins de Gallimard. Avec ses 34 millions d'habitants, écrit-il en préambule, la flaque urbaine formée par la capitale japonaise et ses banlieues est souvent associée à l'image d'une jungle de béton. Par comparaison à d'autres métropoles à travers le monde, elle serait avare en espaces verts. Mais une approche comptable ne reflète que partiellement la réalité. Il existe bien sûr dans Tokyo des havres de verdure que sont les parcs publics ou les jardins des temples et sanctuaires dont les frondaisons libèrent de la frénésie de la vie urbaine. Mais la nature est aussi présente dans les plates-bandes des grandes artères, envahies au printemps d'une profusion de bosquets d'azalées, dans les jardinets privatifs, aussi minuscules soient-ils, et surtout dans les jardins de rue des quartiers-villages dont les pots de fleurs devant les maisons donnent aux ruelles un côté bucolique inattendu. De la présence de la nature dans Tokyo témoigne aussi en été le concert des cigales. Dès l'aube, alors que la ville endormie est encore silencieuse, les cigales commencent à vriller le béton. Leur chant est indispensable aux Japonais pour qu'ils se sentent vraiment en été, écrit encore Philippe Pons. Pour preuve, au cœur de Tokyo estival... Toujours dans son Tokyo Bohème, mais revenant cette fois dans le passé, Philippe Pons écrit « Asakusa fut le premier quartier dont j'explorais la nuit. Lorsque débarquant à Tokyo fin 1970, j'avais demandé dans quel quartier retrouver un peu d'histoire de Tokyo. On m'avait répondu « Allez à Asakusa, ce n'est plus à la mode, mais on y respire encore le passé. Promenez-vous sans but et laissez-vous porter par les rencontres. » Il survivait à Asakusa dans les années 1970-1980, un reliquat de l'état d'esprit hérité de la culture des années folles. À la fin des années 30, le quartier avait été un foyer de résistance passive au militarisme et le refuge d'insoumis recherchés par la police, avant de connaître une brève renaissance au cours de l'occupation, l'une des périodes les plus libertaires de l'histoire de l'archipel. L'occupant avait ses objectifs politiques et ne se préoccupait guère des mœurs des vaincus. Par la suite, détrôné par le quartier de Shinjuku, Asakusa se languissait, mais restait un îlot de liberté, de mœurs, de drôlerie et de plaisir, des plus anodins aux plus secrets. À flâner dans la grande rue de Roku, avec ses cinémas dont certains fonctionnaient toute la nuit, ses striptease, ses petits théâtres, son PMU qui attirait une foule bigarrée de turfistes, ses bistrots et ses gargotes résonnant de rire et d'invectives, on pouvait imaginer l'état d'esprit qui avait innervé ce haut lieu au début du XXe siècle. Sans avoir été mythifié comme le fut Asakusa, Shinjuku a néanmoins une place dans l'histoire. Cet autre quartier fut le creuset de la contre-culture libertaire des années 60 et le théâtre des grandes manifestations étudiantes de la fin de cette décennie, et à ce titre l'ancrage des espoirs, des nostalgies et des désillusions d'une génération. Avec chaque jour 3 à 4 millions de voyageurs, sa gare est la plus fréquentée de la capitale. Pour les adeptes de la nuit, la sortie est, et en particulier Kabukicho, le quartier chaud, agit comme un aimant par la prodigieuse énergie qui s'en dégage. Né du chaos de la défaite, Kabukicho fut parmi les premiers quartiers à se dégager de l'ornière et à prospérer à l'ombre de la truanderie japonaise et des bandes taïwanaises et coréennes qui, s'étant retrouvés du côté des vainqueurs, se taillaient des fiefs face aux yakuza. Longtemps, rien n'y fut planifié, le quartier proliféra de lui-même. En 2009, en revanche, le théâtre Koma, foyer pendant près d'un demi-siècle de la culture populaire, fut détruit et remplacé par un building de 48 étages. inauguré en 2023. Il est dédié au divertissement de tout âge, des ados aux adultes. Au fil des étages se succèdent restaurants, galeries d'art, cinéma, boutiques, théâtres, salles de spectacle et enfilades de couloirs supposés reproduire les ruelles des gargotes et hôtels de luxe. Une page de l'histoire de Kabukicho est définitivement tournée. En 2024, le Centre Pompidou à Paris consacrait une exposition à une autrice de bande dessinée japonaise, Kuniko Tsurita, première femme à être publiée dans la revue d'avant-garde Garo en 1965, alors qu'elle était encore au lycée, pour devenir ensuite une figure importante d'un mouvement proposant des récits réalistes, sombres et matures, destinés aux adultes. Kuniko Tsurita s'est distinguée non seulement par la beauté de son trait, mais aussi par son audace, s'intéressant dès les années 70 aux questions de genre et de violence faites aux femmes, et ce jusqu'à sa mort en 1981, à seulement 37 ans. Pour elle, tout commence par le cri du cœur que lance en juin 1965 un auteur japonais très populaire. Il dit « Le fossé entre les riches et les pauvres devient de plus en plus profond, les petites et moyennes entreprises font faillite et les prix augmentent en raison des effets de la politique misant sur la forte croissance, le nombre de chômeurs va augmenter de façon spectaculaire, il y a un besoin évident d'exprimer le mécontentement du monde sous la forme de dessins. Jusqu'à présent, il y a eu un vide dans l'émergence de nouveaux mangaka, il est temps qu'une nouvelle génération apparaisse. » Un message qui cherche aussi à offrir un second souffle à la revue Garo, créée l'année précédente. Résultat, à l'automne 65, quelques nouvelles signatures apparaissent, parmi lesquelles une jeune femme nommée Kuniko Tsurita. Elle n'a pas 20 ans. Découvrir Kuniko Tsurita, c'est d'abord se plonger dans une époque indignée, écrit le journal Libération dans un portrait dédié à la dessinatrice. Comme les jeunes gens de son âge, Tsurita embrasse la politique, l'invite dans sa vie, dans ses pages, pour satisfaire un désir de renouveau. Son tout premier récit s'ouvre dans une caverne par les vivas d'un jeune garçon soulagé. « Les capitalistes sont morts, les politiciens sont morts, nous sommes tous libres et égaux. Le prolétariat peut enfin écrire sa propre histoire », rêve-t-il, sans convaincre le type coincé avec lui. Car en dehors de la grotte, rien n'a survécu. Maigre libération. Le dessin de la débutante, lis-je encore, n'est pas définitivement formé, mais déjà elle bricole des récits circulaires où la chute renvoie aux premières pages. Déjà l'audace de l'utopie est tempérée par le désespoir mordant de l'underground des 60s. Une certitude morale se forge, plutôt ne pas publier que de se prêter au jeu des carcans imposés par certaines revues. Dans le récit muet d'une desperate housewife du paléolithique, dit encore Libération, elle imagine une histoire rupestre des violences faites aux femmes. Quand nombre des mangaka représentent l'action par le geste, la violence de ses formes cherche plutôt à percer les émotions de son personnage. « Je pense qu'on avait tous une sorte de colère en nous », dira une autre jeune pousse qui s'est glissée au même moment dans les pages de la revue Garo. Mais même si les paroles de nos mangas étaient souvent bouffonnes, au fond, c'était la rage. En 1968, au Japon, c'est carrément les codes narratifs de la BD qui explosent avec l'écriture automatique, le langage du rêve qui abolit les garde-fous de la raison et de la morale. Période que vit intensément Kuniko Tsurita, sauf que la revue Garo ne lui prend plus de planches. Alors c'est comme assistante d'autres dessinateurs que la jeune femme participe à cette révolution. Quant à son travail, car elle ne lâche rien, le ton grinçant des premiers récits laisse place à des envolées allégoriques. Dans « Habitante », deux silhouettes androgynes s'enlacent sur une musique orientale, les corps se fondent dans le décor, des mèches de cheveux deviennent houle, puis prairies étoilées, note un critique japonais. Abandon, gémissement, séparation, ce n'est plus l'artiste qui crée le lien entre l'image et le sens, mais le lecteur. C'est à lui qu'est confiée la tâche de reconnaître l'œuvre comme manga. C'est de l'anti-manga. Dans le splendide « Ma femme est acrobate », elle peint le corps féminin mis à l'épreuve du regard masculin qui se plie et se déplie sans se laisser approcher. Mais alors que dans les années 70, Kuniko Tsurita est au sommet de son art, un médecin lui diagnostique une forme rare et incurable de lupus. Ses publications deviennent plus irrégulières. Kuniko Tsurita trouve un job de serveuse avant de rentrer vivre chez ses parents. Elle disparaîtra en 1981, à l'âge de 37 ans. Les éditions Atrabilé ont récemment publié « L'Envol », recueil d'une trentaine de ses récits conçus entre 1965 et 1981. Ah, une seconde encore avant de larguer les amarres et de quitter l'archipel. Je vous signale qu'il est possible, histoire de poursuivre le voyage, de se plonger dans un ou plusieurs des numéros du périodique Tempura, exclusivement consacré au Japon, à chaque fois sous un angle différent. Le Japon 1990, la famille japonaise, Tokyo, manger le Japon, les fictions japonaises, entre autres numéros toujours disponibles. Notre voyage se termine ici. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, à le faire connaître, à l'étoiler. Bonne nuit ou belle journée. Radio
Caroline. Découvrez toute l'offre podcast de votre radio préférée sur classique21.be.